de suite sur France Culture, du lundi au jeudi, un tout nouveau rendez-vous, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient addictif. Cette semaine, les prix littéraires, une série de Stéphane Bonnefoy réalisée par Guillaume Baldi. Au départ de cette série, il y a cet automne parisien sur lequel s'abattent les prix littéraires et les premières pluies d'automne. Ces noms devenus familiers et qui sont la bannière d'on ne sait plus très bien quoi. Renaudot, Académie française, Interallié, Femina, Décembre, Goncourt et Médicis, décernés aujourd'hui. Comme un refrain qui enfièvre le petit monde de l'édition et des médias culturels et qui n'a pas toujours grand-chose à voir avec la littérature. Alors on peut comprendre certains auteurs qui crachent dans une soupe qu'ils trouvent bien amère, s'étonner de ces lecteurs qui sont prêts à tout pour devenir jurés, et on peut aussi aller voir ailleurs dans les coulisses d'un prix qui se veut sulfureux. Alors pour commencer, les personnages. Un auteur qui ne s'est jamais remis du Goncourt, un autre qui l'a refusé, un autre qui n'en voulait pas, des écrivains qui regardent une vieille photographie en noir et blanc, un philosophe qui a refusé le Nobel, des auteurs qui ont la littérature dans les tripes. Ensuite, le décor. Des appartements dans lesquels on se retranche, des restaurants bondés aux prises avec la fièvre des prix, des archives dans lesquelles l'émotion vibre encore, la campagne, une maison d'écrivain et une pincée d'amertume et de vanité. On est en France et on débarque en plein pugilat.
Alors, tout de suite, nous allons rejoindre Patrick Poivre d'Arvor, d'abord pour le Goncourt, Henri Vincent, ensuite pour le Renaudot. Où en est-on pour le Goncourt?
Pour le Goncourt, comme pour le Renaudot, toujours rien, toujours beaucoup de bruit, d'affolement, de micros, de journalistes, d'hirondelles et quelques supputations. Il paraît que Jean Carrière remonte très fort. Jean Carrière, c'est l'auteur de L'Épervier de Maheu, devant toujours la jeune antillaise Simone Schwarzbart et peut-être Alphonse Boudard, mais tout cela, ce ne sont que des supputations. Et pour l'instant, on n'a rien. En tout cas, j'ai à côté de moi Henri Vincent qui, lui, s'est intéressé au menu des Goncourt.
Oui, le menu, eh bien, écoutez, je vous donne tout de suite des huîtres, coquilles Saint-Jacques à la Provençale, côte de bœuf, foie gras, fromage, sorbet, campagne.
Goncourt, le prix du refus. Stéphane Bonnefoy, Guillaume Baldi.
Alors attendons les résultats.
Oui. Cette fois, ça y est. Et c'est d'abord Armand Lanoux qui va annoncer le Goncourt.
Bonsoir. Un tout petit peu de silence, s'il vous plaît. Approchez les micros, mais ne cassez pas les dents. Le prix Goncourt 1972 a été attribué au cinquième tour à Jean Carrière pour son roman L'Épervier de Maheu, par 6 voix.
Ne te présente pas devant un tribunal dont tu ne reconnais pas le verdict. Cette sentence de Kafka, Julien Gracq, le premier grand refus de l'histoire littéraire française, l'avait fait sienne. Pas Jean Carrière, qui, contrairement à son aîné, accepta le prix dont une académie voulut bien l'honorer. Nous sommes en 1972. Carrière publie L'Épervier de Maheu chez Jean-Jacques Pauvert, l'un des plus importants prix Goncourt de l'histoire.
Laissez-moi finir, s'il vous plaît, messieurs les contestataires. Je finirai d'abord.
Jean Carrière, vous m'entendez actuellement?
Luttez pour ça.
Qui maintenant va vous lire, ce public?
Oui, je l'espère. Vos amis vous ont déjà lu. Voilà, je l'espère. Alors, surtout, je ne veux pas les décevoir pour la prochaine fois.
Attendez, Jean Carrière?
Oui.
Vous nous entendez?
Oui, je vous entends.
Je suis aujourd'hui avec Roger Vrigny devant le micro d'Interactualité. Vous avez eu la gentillesse d'être notre premier invité. Je voulais tout d'abord, avec Roger Vrigny, vous féliciter pour ce Goncourt 72.
Parlez un peu plus fort, je vous prie. Je m'excuse, je vous entends mal.
Je vous adressais les félicitations de France Inter pour ce Goncourt 1972.
Mon Dieu, je vous remercie infiniment. Ça me touche beaucoup. Je suis bouleversé.
Roger Vrigny est avec nous aujourd'hui. Je crois qu'il voudrait vous parler.
Oui.
Eh bien, Jean Carrière, nous vous avons vu à France Inter il y a quelques jours, car vous étiez le grand favori tout de même pour ce Goncourt.
Bonjour, Roger Vrigny, je suis heureux de vous parler.
Ben oui, mais moi je suis heureux de vous entendre et de vous adresser mes félicitations.
Vous m'avez donné beaucoup d'amitié au cours de votre interview.
Est-ce que c'est important pour vous, cette amitié dans la littérature?
Surtout ça qui est important. Et vous savez, je vais vous dire, le prix Goncourt, c'est une chose à la fois merveilleuse et dangereuse, mais quand c'est placé dans le... Je suis un peu ému, excusez-moi.
Mais la littérature n'est pas seulement l'amitié, Jean Carrière. Il y a tout de même en vous une inspiration, une source d'inspiration qui est née dans votre pays, et je crois aussi qui tient peut-être au fait que vous êtes tenu en dehors de toute la vie littéraire parisienne, non ?
C'est-à-dire, vous savez, j'ai été à bonne école. C'est grâce à Giono que j'ai été comme ça. Giono m'a mis en garde contre tous les dangers de la réussite littéraire, et ça ne changera rien pour moi dans la vie que je mène.
Résident nostalgique d'un royaume perdu, Jean Carrière évoluait dans les grands espaces du Sud, ceux de Giono, Camus et Faulkner. Ami de Julien Gracq, Jean Carrière ne refusa pas le prix Goncourt. La peur, dit-il, de se voir taxé de pâle imitateur de l'auteur du Rivage des Sirtes, dont il admirait à la fois l'œuvre et l'attitude. À quoi bon refaire le même geste à 20 ans d'écart ?
Nous avons le Goncourt.
Jean-Jacques Pauvert.
Immédiatement.
2010.
C'est un raz-de-marée, ça a été la plus forte vente des Goncourt après La Condition humaine. Alors, c'était des tirages, on a fait, je crois, 1 200 000 exemplaires en France. On a fait des traductions dans tous les pays. Et c'est tombé, Carrière est tombé là-dedans, c'est-à-dire qu'il allait partout. Il allait partout, on le demandait partout, il allait partout, il se retrouvait au Canada, enfin. Bon, et c'est là où il a commencé à ne pas aller très bien.
Il y a la peur d'abord des... Bon, quand un éditeur vous dit, maintenant tu as 5 millions de lecteurs derrière ton épaule, là, qui est en train de regarder ce que tu écris, c'est vrai qu'il y a une sorte de blocage. On se dit, est-ce que je vais être à la hauteur de ce qui s'est passé ?
Et... Le prix vous a fait mal ?
Oui, oui.
Non, vous le dites comme ça, carrément.
Non, dès le début, j'ai fait une déprime, hein. C'est simple.
Mais elle est pourquoi ? Vous n'étiez...
Alors attendez, voilà, Jacques, Chantal, c'est une question, c'est une bonne question, parce qu'il s'est passé un certain nombre de choses. Vous savez, le proverbe grec qui dit que les sommets attirent la foudre. Il s'est passé un ensemble de choses très désagréables au point de vue familial. D'abord, ma première femme est tombée très gravement malade, elle a fait une sorte de thrombose coronaire. Elle avait 30 ans, bon, j'avais 2 enfants avec elle, et le couple s'est effrité. Bon.
Bon, il y a eu donc ce mauvais moment.
Mais quelque chose de bien plus grave est arrivé, c'est que quand j'avais 12 ans, mon père m'a demandé, était chef d'orchestre, musicien, il n'aimait que la musique, il se fichait de l'argent, des honneurs et de tout ça. Il m'a dit, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard, un jour comme ça, quand on se promenait dans les garrigues, on a fait ça pendant des années et des années. Je lui ai répondu, je veux être écrivain, je veux écrire et vivre à la campagne. Il m'a dit, eh ben, vas-y, j'avais 12 ans, bon. Et j'arrive avec un Goncourt en 72, et mon père, 3 mois plus tard, je l'ai vu qu'une fois, après le Goncourt, je l'ai vu qu'une fois, il m'a serré dans ses bras, il a pleuré. Mon père était un homme plutôt réservé, mais il s'est mis à pleurer, il m'a serré, il m'a appelé mon fils, qui était très...
Il était heureux.
Oui, bien sûr, il était heureux, il était plus qu'heureux, c'était la consécration de ce... C'était presque le prolongement de ce que lui aurait rêvé, bon. Et il s'est fait tuer sur sa bicyclette en venant me voir. Par une chaufarde, bon. Alors, mon père, j'ai reçu un coup de couteau dans le ventre, et j'en ai encore la cicatrice, et je la sens.
En 1989, Jean Carrière publie le prix d'un Goncourt, où il règle ses comptes avec lui-même, sa vanité, comme celle du milieu des lettres, qui lui l'oubliera. Il est vain de cracher dans la soupe qui vous a nourri, même si elle vous a rendu malade. Aussitôt couronné, aussitôt oublié. Par sa faute, diront certains, qui ne lui pardonneront pas son intransigeance rétroactive. Au fond, on reproche à Carrière de ne pas avoir su gérer un succès que beaucoup lui envient, mais qui le rendra mutique pour de longues années. Des années durant lesquelles il reliera jusqu'à la honte Gracq et sa littérature à l'estomac, Shakespeare ou Rimbaud. Et tous ceux qui ont refusé de composer avec les atours du métier.
Dès que j'ai eu terminé ce livre, je me suis senti complètement veuf et un peu orphelin. C'est très curieux. C'est là que j'ai commencé un peu à boiter. Bon, puis alors, le livre sort, il tire à 100 000 exemplaires avant le Goncourt. Moi, j'ai dit, c'est gagné, c'est fini. Je l'avais sorti au mois d'avril, hein, il ne faut pas l'oublier. Je ne cherchais pas du tout les prix.
puis on lui colle le Goncourt. Alors c'est comme si on ajoutait deux fusées à un avion qui va déjà à 1000 à l'heure, vous comprenez. Bon, alors il s'est balancé, et puis il a été traduit en 14 langues et tout. Après, je suis devenu une espèce de gourou, parce que, bon, il fallait que je réponde à tout, il fallait que je sache tout, que je puisse guérir les gens. Et c'est vrai que j'ai reçu 80 000 lettres. Il faut le faire quand même. Hein.
Et là, dans le livre, vous dites, mais à un moment, j'ai eu l'impression d'être piégé. Alors c'est ça le retour des choses. On paye très cher un succès.
Ben, c'est-à-dire, oui, piégé, parce que vous vous mettez à ressembler à une image de vous qui n'est pas la vôtre.
Quel est le conseil que vous donneriez au Goncourt 87 ?
De rester chez lui.
Le malaise Jean Carrière nous rappelle que la littérature, plus que jamais soumise à la loi du marché, a besoin de l'exigence de ses écrivains, tenaillés par des ambitions difficilement conciliables, des désirs de reconnaissance, voire de lumière, et la nécessité d'évoluer seul, loin des jugements de la critique et des académies. Jean Carrière n'est pas le dernier héritier du Julien Gracq. En 2015, le jeune écrivain Joseph Andras a fait souffler un vent de fraîcheur en refusant le Goncourt du premier roman pour Deux nos frères blessés, publié chez Actes Sud. Une position qui n'est pas sans rappeler le courage dont Julien Gracq fit preuve en 1951.
Raymond Queneau apparaît. C'est une bousculade insensée.
Messieurs, s'il vous plaît. Oh là 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 là.
Un peu de désordre parfois permet de redonner du sens.
Aujourd'hui, 3 décembre 1951, notre Académie a décerné son 49e prix au rivage des Sirtes de Julien Gracq. Par 6 voix au premier tour.
28 novembre 1951. Cher monsieur, je n'ai pas prêté une attention vive aux premiers échos parus dans le Figaro et le Figaro littéraire et ailleurs qui faisaient état de mes chances pour le prix de fin d'année. La position que j'avais prise l'an dernier au sujet des compétitions littéraires, dans un article à la littérature à l'estomac, tout autant qu'elle les rendait invraisemblables, me paraissait leur opposer d'avance à un démenti suffisant. On ne s'attendait tout de même pas à ce que j'ai changé d'avis en quelques mois. Mais ces échos se multiplient et se précisent, et j'ai de bonnes raisons de ne plus leur refuser aujourd'hui un caractère sérieux. Dès lors, ceux qui me lisent ne comprendraient pas que je ne m'explique pas brièvement, mais publiquement à ce sujet. Non seulement je ne suis pas, et je n'ai jamais été candidat, mais, puisqu'il paraît que l'on n'est pas candidat au prix Goncourt, disons, pour mieux me faire entendre, que je suis, et aussi résolument que possible, non candidat.
Bien sûr. Raymond Queneau, je voudrais vous demander, la radio française, de nous dire ce que vous pensez de l'attribution du prix et ce que vous pensez de la position de Julien Gracq.
Et je n'ai rien à en penser, je n'ai pas à le savoir.
Nous sommes là, cette photo, elle est prise juste après l'octroi du prix Goncourt au rivage des Sirtes et après le refus de Gracq. Gracq a fini par accepter de rencontrer les journalistes dans l'endroit où il déjeune habituellement, au Café Voltaire, place de l'Odéon.
Julien Gracq, sous les sunlights, ça donne un espèce de Pierrot lunaire qui a l'air complètement, les yeux ailleurs, un peu affolé. Autour de lui, il y a de l'agitation, on voit les journalistes avec les micros, la foire de micros, etc. Donc on est dans le il y a un contraste saisissant entre sa tête, qui a l'air de se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Et voilà, ce bruit, là, ce buzz qu'il y a autour.
Et on voit les journalistes grimper sur une échelle par l'extérieur et ouvrir le vasistas du café pour essayer de saisir une image de Gracq. Et là, en fait, sur cette image, Gracq regarde le journaliste qui a passé par-dessus, qui a grimpé sur son échelle avec son relais flex. Il le voit d'en haut, comme ça, il a l'impression d'être à la fois entouré et puis surplombé par des journalistes. Et il donne le sentiment de quelqu'un qui est acculé presque physiquement, une impression d'anxiété assez grande. Bon.
Entre celui qui lève les yeux au ciel juste parce qu'il s'ennuie, celui qui manifestement salue un confrère, celui qui se prend pour un espèce de crooner là, avec son micro, on a l'impression qu'il est dans un tour de chant. Et puis bah, déjà tous les visages masqués par les micros qui se tendent. Et puis au milieu de tout ça, donc le visage de Grac qui fait vraiment Pierrot Lunaire, qui est presque un visage triste, ouais, qui prend évidemment toute la lumière du flash plus que les autres, et qui de manière assez amusante projette son ombre sur ces journalistes qui l'entourent. Il y a beaucoup de choses là qui sont rassemblées, quoi. C'est-à-dire c'est la solitude de cet homme qui ne voulait absolument pas se retrouver exposé comme ça. Les gens qui l'entourent, mais parce qu'il est un événement mondain et non pas parce que ils admirent son livre ou quoi que ce soit. Enfin, il y a la trace un petit peu d'une espèce de détresse, pas du tout aristocratique. On a beaucoup reproché à Grac à maintes étapes de son parcours, mais évidemment notamment au moment de l'affaire Goncourt, on lui a reproché une espèce de pose, de morgue, un côté hautain. Là, c'est pas du tout ça qui est donné à voir. C'est vraiment une forme de légère détresse, je dirais pas d'angoisse, mais de détresse. Et oui, peut-être plus que sur d'autres photos, il y a ce côté un peu Pierrot Lunaire dans une assemblée de fous.
En même temps, c'est une scène assez comique. Il ne faut pas non plus exagérer, il n'était pas en danger de mort, ça, mais c'était un moment franchement désagréable pour lui. Donc dans cette circonstance, il a lu un communiqué, en fait, hein, et il s'est abstenu de toute déclaration ultérieure. On le voit ensuite, dans la bande d'images d'actualité, tourner le dos et s'éloigner avec deux autres personnes en parlant, mais il ne dira rien, il n'aura rien dit de plus aux journalistes que cette déclaration qu'il avait préparée.
« 24 heures à peine après le scrutin de ce singulier prix Goncourt, une question me paraît déjà tranchée à mon désavantage. On peut faire un lauréat malgré lui et l'affubler des lauriers qu'on veut dès qu'on dispose, et c'est le cas du jury Goncourt, de certains moyens de masse contre lesquels toute opposition individuelle est impuissante. Je suis, une fois élu, dans l'impossibilité de prouver tout à fait ma bonne foi. Je refuserai le chèque, bien misérable chose. Je refuserai toute publicité au titre du prix. Encore, il faut-il cette circonstance favorable, comme c'est le cas, que l'éditeur s'y prête. Je ne puis faire davantage. Une machine se met en route. Le refus est noyé, balayé, dans les déluges de la copie des quotidiens. Mieux même, il ajoute à l'éclat de la cérémonie. Le lauréat involontaire, obligé de lire une brève déclaration de refus, est mitraillé par les caméras. Quoi qu'il fasse, il ajoutera au bruit. Quoi qu'il fasse, il sera très malin.
Grac, un an avant, 1950,
Michel Murat
avait publié dans la revue dirigée par Albert Camus, Empédocle, un long article, un essai, sous le titre « La littérature à l'estomac », qui faisait état d'une crise du jugement littéraire en France. Et au détour de ce texte, il se moquait des prix littéraires, hein, en parlant de sadiques qu'on appâte au coin d'une rue avec un camembert ou un morceau de pain, un bout de fromage. Hein, il se moquait des prix littéraires. Et donc, il déclare que, après cette prise de position qui avait quand même retenu l'attention publique, il n'avait pas imaginé qu'on pût lui décerner un prix à lui qui s'était moqué ouvertement des prix littéraires.
Nous en sommes là. La demande harcelante de grands écrivains fait que presque chaque nouveau venu a l'air de sortir d'une forcerie. Il se dope, il se travaille, il se fouille les côtes. Il veut être à la hauteur de ce qu'on attend de lui, à la hauteur de son époque. Le critique, lui, n'en veut pas démordre. Coûte que coûte, il découvrira. C'est sa mission. Chaque semaine, il lui faut quelque chose à jeter dans l'arène à son de trompe. Aussi voit-on trop souvent, en effet, la sortie d'un écrivain nouveau nous donner le spectacle pénible d'une rosse efflanquée essayant de soulever lugubrement sa croupe au milieu d'une pétarade théâtrale de fouets de cirque. Rien à faire, un tour de piste suffit. Il sent l'écurie comme pas un. Il court maintenant à sa mangeoire. Il n'est bon qu'à radioter, à fourrer dans un jury littéraire où, à son tour, il couvra l'an prochain quelques nouveaux poulains aux jambes molles et aux dents longues.
À partir du moment où quelqu'un comme Gracq, qui est en fait un des seuls aussi, parce qu'il n'y en a pas tant que ça des pamphlets contre les prix littéraires.
Arnaud Bertina.
Quelqu'un comme Gracq qui énonce très très clairement son refus de tout ce système-là et qui se retrouve quand même dans les petits papiers de l'Académie, le désir de quand même aller le primer seulement 2 ans après la littérature à l'estomac, je crois qu'il n'y a que 2 ans qui s'écoulent entre les deux livres. Pour moi, ça révèle vraiment de quelque chose de très clair, c'est-à-dire il y a un mouton noir, on va le faire réintégrer le rang des pratiques habituelles. Il y a quelqu'un qui snobe notre pouvoir, et ben on va lui faire comprendre qu'est-ce que c'est notre pouvoir. Et là, pour moi, là vraiment, c'est l'aspect, je dirais, assez dégoûtant en fait de cette histoire-là, quoi. C'est-à-dire quelqu'un fait une déclaration, non pas tant de liberté que de différence dans un premier temps. Et en fait, par leur obstination, les Goncourt transforment ça en déclaration de liberté, quoi. Donc, ou en déclaration de guerre, mais ça va toujours un petit peu avec, malheureusement. C'est-à-dire que Gracq marquait sa différence, et parce que les autres s'obstinent à vouloir le faire rentrer dans le rang, tout d'un coup, le geste prend encore une autre valeur, quoi. Il devient un geste encore plus impressionnant. C'est-à-dire le geste d'écrire la littérature à l'estomac et de refuser le Goncourt.
Il me semble que c'est violenter tout de même un peu la personne.
Tribune de Paris.
Du compétiteur, quel qu'il soit, même s'il n'est pas candidat,
1951.
De lui donner un prix dont il ne veut pas. Vous me direz à ce moment-là que tout de même rentre en ligne de jeu l'éditeur, les intérêts majeurs attachés à l'édition.
Oh non.
Il est très valable que vous, Goncourt, vous teniez à avoir dans votre palmarès M. Julien Gracq pour que dans l'avenir des temps et dans 100 ans, on dise ils n'ont pas oublié Julien Gracq, ils ont peut-être oublié Alain Fournier, ils ont peut-être oublié Colette quand elle le mire, mais ils ont eu Julien Gracq. Mais je comprends très bien également l'attitude de Julien Gracq qui nous dit « Votre récompense, je l'ai maudite l'an dernier, je l'ai maudite sous toutes ses formes, je ne peux pas l'accepter. Dans quelle mesure morale alors pouvez-vous forcer un homme en écrivain aussi honorable et pour des raisons aussi valables que celles qu'il a exprimées d'accepter une récompense dont il ne veut pas ?»
Pardon, il peut la refuser.
Le public français se conçoit plutôt à la manière d'un corps électoral où le vote est obligatoire et où chaque écrivain, chaque livre un peu voyant, par sa seule apparition, remet en route un perpétuel référendum. Les autres, dans le fouillis de ce qui s'imprime, cherchent à tâtons une nourriture faite à leur estomac. Le public français sait, lui, que sa destination de naissance est d'élire des présidents de la République des lettres. De là, cette cuisine parlementaire, ces jalousies, ces intrigues de sérail, ces manœuvres de couloir, ces débauches de clientèle, ces débinages journalistiques, ces scrutins à double fond plus machiavéliques que ceux de la République sérénissime, ce cursus honorum plein de pièges et de détours qui rendent la vie littéraire française si bassement excitante. Car l'écrivain français se donne à lui-même l'impression d'exister bien moins dans la mesure où on le lit que dans la mesure où on en parle.
Bah, il y avait tous les paramètres pour contredire ce que Gracq avait écrit. C'est-à-dire les écuries d'auteurs, bah là on va le donner à José Corti.
Sylvie Ducas.
Qui n'a jamais eu de prix de sa vie. Donc c'est les éditions Corti, qui est la librairie José Corti qui se retrouve avec un prix. C'est attaqué donc un détracteur, violent, c'est violent hein, le pamphlet littérature à l'estomac. C'est d'une violence ce pamphlet, donc c'est se venger de ça. Et c'est se présenter en jury capable de, par-delà les attaques virulentes contre eux, de se prétendre un jury d'excellence capable de reconnaître l'excellence d'un livre. Donc ça rachète effectivement une Académie Goncourt qui a besoin de redorer son blason.
Ce que Gracq défend n'est pas une littérature d'élite. Ce qu'il défend, c'est l'autonomie de la littérature. Il défend une conception traditionnelle du jugement critique qui est porté par le désir du lecteur. Il a une conception de la lecture qui est très influencée, enfin très marquée par le surréalisme, mais qui est en fait une conception qui est partagée assez largement par les écrivains depuis la fin du 19e siècle. Les écrivains ont imposé leur capacité de jugement sur les œuvres en fonction de leurs affinités, hein, une critique d'affinités électives. Gracq l'a pratiqué, mais il est loin de l'avoir inventé. Et donc c'est cette autonomie du jugement individuel, hein, qui est revendiquée contre des processus qui imposent en fait les catégories de jugement et les objets qui en sont bénéficiaires à l'attention du public.
Essayons de nous frotter les yeux, de saisir sur le vif. Ce n'est jamais facile, cette différence, résultat de 1000 changements imperceptibles, qui séparent aujourd'hui la figure du grand écrivain moderne de l'apparence qu'elle pouvait prendre encore il y a 50 ans. Sollicité par cette fixation déformante, contaminée dans son essence par l'intervention de ce fait de foule, étroitement imbriqué au continuum de quotidiens fabuleux que débitent en tranches saccadées les éditions des journaux et les émissions de la radio, l'écrivain moderne est devenu une figure de l'actualité.
Ce qui est intéressant, c'est de voir que la bataille se joue en deux temps, c'est-à-dire que c'est un texte qu'on peut dire violent. Le voir que comme un pamphlet, c'est encore une réussite du milieu, c'est-à-dire qu'il arrive en permanence à ne tout présenter que comme des gestes négatifs. C'est-à-dire que ça n'est pas qu'un geste négatif, la littérature à l'estomac. C'est aussi, justement, comme les lettrines de Gracq, en lisant, en écrivant, ce sont des fantastiques déclarations d'amour à la littérature et à ses puissances. Et à un autre niveau, il y a quelque chose d'amusant dans cette idée de guerre en deux temps, c'est que le rivage des Sirtes, qu'est-ce que c'est comme histoire? C'est quand même donc la principauté d'Orsena, qui est en train de s'effondrer, quoi, qui n'a plus de suffisamment de vie en elle pour préférer la paix, et qui se laisse aller à l'idée de la guerre, en fait. Donc il y a l'idée d'une décadence de civilisation, etc. Et tout le roman a beaucoup marqué les esprits. Pourquoi ? Parce que, en fait, ça n'est que l'attente, la lente descente vers cette guerre. Et la guerre se passe hors roman, quoi. C'est-à-dire que c'est dans ce qui suit ensuite. Mais en fait, ce qui suit, c'est justement ce qui va se passer avec le Goncourt, quoi. C'est-à-dire que la guerre va avoir lieu, effectivement, hors du livre, et elle va avoir lieu de cette manière-là, quoi.
Je lis donc le rivage des Sirtes. Hein. Il me semblait que j'étais cueilli, nu et glacé, sous le feu d'un projecteur éblouissant. Je ne songeais guère aux conséquences. Ce que je ressentais seulement, c'était l'horreur crue d'un attouchement presque physique. Ces milliers d'œufs, là-bas, braqués sur moi, maintenant, savaient. « C'est la fin », prononçai-je stupidement d'une voix blanche, et je sentis que c'était un souhait plutôt qu'une constatation. En cet instant, de défaillance brutale, je désirais passionnément que la terre s'entr'ouvrît sous moi. À cette minute, et à cette minute seulement, je comprenais tout, à la lueur qui étoilait soudain toutes les prunelles lointaines. Je voyais, enfin, ce que j'avais fait. Il se décrit, donc, dans une scène qui, par anticipation, représente exactement, enfin, évoque de façon très très forte la position de Gracq qui va être celle de Gracq au moment du prix Goncourt, lorsqu'il se trouvera sous le feu des projecteurs, le héros du jour, ayant fait ce qu'il fallait pour ça, mais en même temps en l'ayant par avance refusé sans l'avoir voulu, etc. Et ce mélange, cette contradiction est tout à fait, hein, celle du personnage. C'est donc une méditation sur les processus intellectuels, psychiques, sociaux et individuels à la fois qui ont conduit au déclenchement de la guerre, hein, à son mûrissement et à son déclenchement. C'est donc un livre d'histoire, mais en même temps d'histoire désactualisée. Antoine Blondin avait parlé d'un imprécis d'histoire et de géographie à l'usage des civilisations rêveuses. Mais c'est assez bien vu, et je pense que c'est une image assez juste du texte. Donc le livre a été, quand il a paru en septembre 1951, le livre a été bien accueilli par la critique, à la fois bien accueilli et d'une certaine façon la critique est restée perplexe, elle l'admirait mais ne savait pas très bien quoi en dire. Alors on dit ouais, c'est une incantation, c'est un livre magique, etc. Mais on arrive mal à le situer, à en situer le propos. Son propos d'ailleurs reste énigmatique, même si je dirais c'est un livre qui est nettement condamné à gauche, comme trop détaché, enfin aristocratique, élitiste, détaché du social. On rattache à juste titre d'ailleurs à une tradition symboliste et décadente sur laquelle les gens comme Claude Roy, les journalistes des lettres françaises, pensaient avoir tiré définitivement un trait. Il faut penser que ce livre est à peu près contemporain des Chemins de la liberté de Sartre, des communistes d'Aragon, c'est-à-dire des grandes entreprises romanesques qui essayent de dire ce qui s'est passé entre 1940 et 1945, de faire une narration de la guerre. La plupart des critiques font l'éloge de l'œuvre comme œuvre littéraire à part entière, pleinement autonome, au fond dégagée des circonstances, portée par son style, mais n'en voient pas, je dirais, ont du mal à en percevoir la portée idéologique.
L'histoire, c'est mon métier, je l'enseigne, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup. Et il est assez normal que ces préoccupations qui sont professionnelles et puis qui sont aussi une question de goût, d'inclination,
Julien Gracq,
soient apparues dans un livre.
1969.
C'est plutôt le sentiment de l'histoire, en fait, je dirais, qui joue un rôle important plutôt que l'histoire. Car bien que le livre soit plongé dans l'histoire, à mon sens, il n'est pas daté. Il ne se situe pas à une époque précise. C'était plutôt, un fragment d'histoire désincarné. Les mots ne s'accouplent pas très facilement, histoire est désincarnée. Et pourtant, c'était un peu ça. Et où, cependant, j'aurais aimé qu'il ressorte une espèce de sentiment fondamental de l'écoulement de l'histoire, ou plutôt de la direction. Il s'agissait, oui, d'un fragment un peu désincarné, mais à travers lequel on pouvait lire tout de même, un peu, si vous voulez, comme à travers une grille, comme ça, quantité d'événements qui pouvaient apparaître en transparence. Et au fond, on est tout de même, je crois, très marqué par l'époque où on a vécu. Mes livres ne sont pas très datés en général, mais enfin, j'appartiens à mon époque, ils donnent influence de toutes les façons. Il y a eu certainement une époque là, qui m'a beaucoup marqué, c'était la fin pratiquement de la jeunesse, entre 23 et 30 ans, disons, qui est l'époque, en somme, de la montée de la catastrophe hitlérienne, enfin, qui se situe entre 1933 et 1940. Tout de même, j'ai un souvenir extrêmement précis de cette époque et de quelque chose qui était en route. Ce souvenir de la guerre de 39-40 et de ce qui a précédé est certainement fondamental dans le projet de ce livre. Maintenant, alors, il est bien évident que dans le livre, et ça on ne peut le reprocher, mais c'est un reproche que j'encourais délibérément, il n'est pas du tout question de toutes les causalités beaucoup plus solides, évidemment, historiques, économiques et autres, qui, bien entendu, m'apparaissent toujours fondamentales. Mais enfin, ça n'était pas du tout pour moi le sujet. Le sujet, c'était plutôt cette espèce de courant étrange qui pousse à un certain moment, à une masse humaine, vers un événement désiré ou redouté tout aussi bien. À partir du moment où il se produit une certaine accélération. C'est de ça qu'il est souvent question, enfin pour une bonne part dans le livre.
À la fin de l'été, donc on a une Loire un peu basse. Et alors, je ne peux pas m'empêcher, ça c'est aussi quelque chose de très personnel, quand j'arrive ici dans cette pièce du rez-de-chaussée, qui était la salle à manger à l'époque, de me dire, regardez ici, quand vous voyez la Loire...
Cathy Barrault.
Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la balustrade de la terrasse, du balcon, la Loire et le bois, c'est-à-dire cette petite forêt qu'il y a sur l'île Batailleuse en face. Il avait cette vue quand même sous les yeux, souvent. Et je pense qu'un texte s'origine beaucoup dans les lieux où on vit, dans les lieux d'enfance très fortement, même si on les déplace dans des lieux pour le rivage des Sirtes, dans des lieux imaginaires. Et le rivage des Sirtes, alors là... La première fois, ça m'a fait vraiment un choc quand je suis allée sur l'autre versant, là, puisqu'on a devant la maison de Julien Gracq deux bras de la Loire. Il y en a un ici qui est toujours en eau et qui, que les Florentais appellent le canal, qui est navigable. Et puis l'autre bras qui a un charme immense, qui est très large, en hiver évidemment, qui est tout en eau, mais en été, comme tout le long de la Loire, on a des bancs de sable dorés, hein, au milieu du lit de la Loire. Et quand je suis arrivée de l'autre côté, là, avec quelques amis auteurs, il y a quelques années, sur les rives, on a pris un petit chemin dans des taillis, et on est arrivé sur cette berge de l'autre côté, et j'ai dit « le rivage des Sirtes ». Et en face, on avait nos ennemis, puisqu'on est ici en Anjou historique, et que de l'autre côté, on est en Bretagne historique. Il faut savoir qu'à Saint-Florent-le-Vieil, c'est un lieu stratégique de l'histoire. La gabelle ici était payée, de l'autre côté, on ne payait pas la gabelle. Donc, il y a une frontière très forte. Dans la maison, j'ai vraiment ce sentiment qu'on est là dans une forteresse. Je pense qu'enfant, il a pu vraiment avoir ce sentiment. Parce que quand on vit ici, quand on est un enfant, il y a une forteresse et puis il y a ce fleuve qui est là au pied de la maison. Donc au rez-de-chaussée du grenier à sel, pour recevoir le public, on a donc organisé une chambre des cartes. La chambre des cartes, c'est un chapitre du rivage des Sirtes. Et donc on a introduit cette chambre des cartes par sur le mur une citation de Julien Gracq. Un secret m'attachait à la forteresse, comme un enfant à quelques cachettes découvertes dans des ruines. Au début de l'après-midi, sous le soleil cuisant, le vide se faisait dans l'amirauté avec l'heure de la sieste. À travers les chardons, je longeais le fossé sans être vu jusqu'à la poterne. Un long couloir voûté, des escaliers disjoints et humides me conduisaient au réduit intérieur de la forteresse. La fraîcheur de sépulcre tombait en nappe sur mes épaules. J'entrais dans la chambre des cartes. Là, on a tous les hameaux autour de Saint-Florent-le-Vieil. On a le pont de Vallée, Piessec, la Bergerie, la Noël, Ribotte, les Gats, la Vieille Renardière, le Bois Verdé.
Devant moi, s'étendaient en nappe blanche les terres stériles des Sirtes,
la Biserie,
piquées des mouchetures de leurs rares fermes isolées, bordé de la délicate guipure des flèches des lagunes. Parallèlement à la côte, courait à quelque distance, sur la mer, une ligne pointillée noire, la limite de la zone des patrouilles. Plus loin encore, une ligne continue d'un rouge vif. C'était celle qu'on avait depuis longtemps acceptée d'un accord tacite pour ligne frontière et que les instructions nautiques interdisaient de franchir en quelque cas que ce fût. Orsena et le monde habitable finissaient à cette frontière d'alarme, plus aiguillonnante encore pour mon imagination de tout ce que son tracé comportait de curieusement abstrait. À laisser glisser tant de fois mes yeux dans une espèce de conviction totale au long de ce fil rouge, comme un oiseau que stupéfie une ligne tracée devant lui sur le sol, il avait fini par s'imprégner pour moi d'un caractère de réalité bizarre. Sans que je voulusse me l'avouer, j'étais prêt à adouer de prodiges concrets ce passage périlleux, à m'imaginer une crevasse dans la mer, un signe avertisseur, un passage de la mer Rouge. Très au-delà, prodigieux d'éloignement derrière cet interdit magique, s'étendaient les espaces inconnus du Farghestan, serrés comme une terre sainte à l'ombre du volcan Tangri, ses ports de Rage et de Tranger, et sa ceinture de villes dont les syllabes obsédantes nouaient en guirlande leurs anneaux à travers ma mémoire. Géra, Mirfé, Targala, Urgassonte, Amicto, Salmanoé, Dirceta. debout, penché sur la table, les deux mains appuyées à plat sur la carte, je demeurai là parfois des heures, englué dans une immobilité hypnotique, d'où ne me tirait pas même le fourmillement de mes paumes.
Quand j'ai lu Les Terres du Couchant, donc quand il est ressorti et qu'on l'a fêté ici à la maison Julien Gracq, je me suis dit qu'il avait sans doute eu beaucoup de plaisir à écrire Le Rivage des Sirtes. Ce plaisir d'écrivain, c'est pas toujours plaisant d'écrire, mais ce plaisir où on est dans l'histoire, on est dans ce rêve, on est dans cette lancée, cette atmosphère, ce rythme du texte, et qu'il a eu envie de retrouver ce rythme et ce plaisir-là de cette écriture, et il a écrit le livre qu'on appelle Les Terres du Couchant. Et puis, au bout du compte, peut-être s'est-il dit que là, ça ne conviendrait pas au public, que c'était un travail d'écrivain en effet passionnant, mais que pour le public, il fallait changer. Et je trouve ça formidable. Terminer un manuscrit, ne pas le publier, et aller vers un autre travail qui s'appelle Un balcon en forêt, là, c'est un écrivain. On peut dire qu'on a un écrivain. C'est-à-dire qu'il ne publie pas à tout prix. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il reprochait, ces auteurs qui publient systématiquement tous les deux ans, en septembre, un livre. Il n'a pas à compter sur la vente de ses livres pour vivre. Il avait son revenu d'enseignant, d'autres revenus sans doute ici là, à la fin avec ce qu'il possédait à Saint-Florent. Donc il n'avait pas besoin de ça et c'est une liberté extraordinaire.
Gracq considère que l'œuvre littéraire obéit à ses propres lois. La genèse de l'œuvre littéraire obéit à ses propres lois et donc elle a sa propre temporalité qui n'a rien à voir avec le temps social. C'est une position de fond qui, à mon avis, est parfaitement juste, hein, parfaitement fondée, parce que, je dirais, l'obligation dans laquelle les écrivains, lorsque leur carrière est lancée et institutionnalisée, se trouvent de fait sous la pression de leurs éditeurs de publier quasiment leur livre annuel, ou presque, alors... Il y en a à qui ça convient très bien, et pour beaucoup, on en voit le caractère néfaste. Nous sommes dans le système médiatique, hein. Il en va pour les écrivains comme pour les hommes politiques, il faut être présent. Si on n'est pas présent, si on n'occupe pas le devant de la scène, on n'existe pas, on n'a pas de visibilité, on est oublié très vite. L'histoire littéraire est pleine d'exemples d'écrivains qui ont eu leur temps de gloire et qui sont après tombés, ont disparu des écrans, comme on dit aujourd'hui, sans retour.
De ce que l'écrivain dispose aujourd'hui de mille manières de se manifester, qui portent souvent infiniment plus loin que ses livres, il se trouve que sa mise en place gagne infiniment en rapidité à emprunter d'autres voies que la lente pénétration, la lente digestion d'une œuvre écrite par un public que la faim ne dévore pas toujours.
Donc ici, on est dans le salon de Julien Gracq. Il avait, on peut dire, interdit qu'on fasse un musée. Hein. Il n'aimait pas du tout ces maisons d'écrivains où, en fait, on remet en scène le bureau, les papiers, les objets de l'écrivain. Donc, on n'a surtout pas fait de musée. On n'a pas reproduit. On a acheté du mobilier nouveau, sauf on a quand même deux pièces de mobilier qui lui appartenaient. C'est son bureau, hein, qui était une très jolie pièce... De menuiserie, ce bureau était celui qu'il avait à Paris, et puis son fauteuil qu'il avait à Paris aussi, mais qui ne sont pas sanctuarisés et qui font partie du mobilier. Donc là, on a gardé cette pièce comme le salon qu'il était, où il a beaucoup reçu. Hein, dans la dernière partie de sa vie, il a reçu énormément ici de personnalités, du monde de la littérature, des arts, de la politique même. Et puis il recevait aussi les Florentais. Quand on a vidé la maison, les héritiers ont emporté le mobilier. Et puis, quand je suis arrivée quelques mois après, le téléphone était toujours là. Donc on a gardé le téléphone. Peut-être un jour il va sonner. Peut-être il va nous appeler.
« la puissance de la mécanique éditoriale à l'époque, donc en 1951, est déjà suffisamment colossale pour que beaucoup d'auteurs, qui pourraient avoir des convictions, qui pourraient avoir des dégoûts comme des passions, que beaucoup d'auteurs auraient été susceptibles ou étaient susceptibles de se sentir fragilisés par cette énorme mise en branle du milieu littéraire autour du prix Goncourt. Or là, très calmement, très, très sûr de ce qu'il cherche dans la littérature, Gracq prend les devants en disant ça ne m'intéresse pas. Et voilà, moi je trouve cette espèce de confiance en lui très très désirable, parce que je mesure moi-même effectivement en tant qu'auteur, je mesure à quel point on est quand même friable par rapport à ça. C'est-à-dire que même quand on sait toutes les collusions qui sont derrière les prix et qui font les livres primés, même quand on sait ça, quand on en a, moi ça fait 15 ans que mon premier livre est paru, des exemples de manipulation de jury, j'en ai mais à l'appel, des trucs vraiment des fois ahurissants, il y a quand même toujours un moment où on se sent friable et où on aimerait bien que la foudre nous tombe dessus. Là, moi, ce que je trouve voilà très beau et qui peut me servir d'une certaine manière un petit peu de modèle ou de phare dans la nuit, c'est cette espèce de confiance de Gracq.
On commence avec l'affaire du printemps qui a fait la une de tous les journaux. Je veux parler de deux nos frères blessés de Joseph Andras. Son roman, il raconte au présent de l'indicatif le destin de Fernand Yveton, un ouvrier communiste, militant anticolonialiste, rallié au FLN, qui fut torturé et puis guillotiné à Alger le 11 février 1957, ce qui fait d'ailleurs de lui le seul Européen guillotiné pendant la guerre d'Algérie, puisque René Coty et son ministre de la Justice de l'époque, un certain François Mitterrand, ont refusé de le gracier. Motif de cette exécution, Yveton avait tenté de poser une bombe dans une partie désaffectée de son usine. Donc c'est clairement un livre de réhabilitation qu'a écrit Joseph Andras. C'est chez Actes Sud, livre qui a valu à ce jeune Normand de 32 ans, caché sous un pseudonyme, de recevoir le 9 mai dernier le Goncourt du premier roman, un prix qu'il a refusé aussitôt, en expliquant, et là je le cite, que la compétition, la concurrence et la rivalité sont des notions étrangères à l'écriture et à la création.
Le prix du premier roman, en fait, c'est une bourse. Donc c'est une bourse d'aide à la création, inventée par l'Académie Goncourt dans les années 75 à peu près, par Hervé Bazin, etc. Donc refuser une aide à la création, alors que c'est la grande précarité qui règne dans le monde de la littérature, il y a quelque chose d'un peu indécent. Je pense qu'il y a eu des réactions d'énervement dues à ça.
De fait, les critiques, quelques critiques acerbes qui ont été adressées à Andras ressemblent trait pour trait à ce qu'a pu avoir Gracq en son temps. C'est-à-dire qu'à nouveau, on sort le truc de hautain, de qui c'est ce petit monsieur comme ça qui se permet de... Bon, alors ça n'a pas eu le même écho parce qu'il ne s'agit pas du Goncourt, mais du Goncourt du premier roman, ce qui est un peu une niche par rapport au Goncourt lui-même.
Après, cet auteur a réactivé, je pense, l'effet Gracq, c'est-à-dire la posture de littérature sans compromis ni compromission avec de la publicité, etc. Donc il a réactivé fortement cette image, donc cette posture du désintéressement, etc., qui est très peu, qui est vraiment en perte de vitesse quand même, il faut le reconnaître. Et effet pervers, parce que je ne pense pas du tout que c'était un effet voulu par ce jeune auteur, il se retrouve à avoir fait publicité de son refus, alors que je pense que c'est quelqu'un qui ne cherche pas à avoir de la publicité pour sa littérature. Hein. On a à peine une photo de lui dans les médias, etc. Mais c'est aussi une posture hein, de dire « je ne veux pas en être, je ne veux pas avoir de prix, je ne veux pas être dans ce système-là ». Il y a différentes postures d'écrivains. Du plus désintéressé aux politiques, à l'engagé et à celui qui essaye de s'accommoder comme il peut du système pour essayer de vivre pas trop mal de sa plume.
pour le coup, dans sa lettre, Andras plante les choses de manière très contemporaine. Je veux dire, quand il parle de militants de l'égalité, c'est bien en 2015 que c'est dit. Donc c'est bien en résonance aussi avec l'actualité. Donc ça aurait été faux de lui dire... Vous... Mais moi, j'ai vu des billets vraiment incroyables, hallucinants, hein, de malhonnêteté, de méchanceté, mais qui traduisaient exactement la même chose, c'est-à-dire... Le milieu s'empare de quelqu'un, le milieu adoube quelqu'un, et je parle bien de milieu, je parle pas de telle ou telle personne, hein, parce que ces personnes-là sont complètement toutes interchangeables à toutes les époques. Mais le milieu adoube quelqu'un, et tout d'un coup, ce quelqu'un lui fuit entre les mains, et la panique à bord, ah, mais alors donc mon pouvoir n'est pas le pouvoir que j'espérais. C'est-à-dire, ça leur renvoie une image de leur pouvoir, faiseur de roi, etc., qui est tout d'un coup pas celle sur laquelle ils vivent. Tout d'un coup, le roi est nu. C'est vraiment ça qui se passe dans le refus de ces prix-là. Ce sont les prix que tout le monde désire, et puis boum, il y a quelqu'un qui ne le désire pas. Donc l'Académie le prend terriblement mal. Mais c'est le même ridicule pour ces gens-là, le même à chaque époque.
Ça fait longtemps que les prix ne consacrent plus, c'est-à-dire consacrés au sens sacre de l'écrivain. Là, j'ai une vision assez... peut-être pessimiste, mais non, je crois qu'elle est lucide. Hein. Je crois qu'on est sorti du sacre de l'écrivain. C'est-à-dire, l'écrivain, il a été sacralisé à une époque, c'était la Troisième République. On avait besoin d'une icône sociale pour fédérer la République, pour qu'elle passe à une République laïque, donc quitter les grands saints pour aller vers des grands hommes. Et dans ces grands hommes, il y avait l'intellectuel, mais il y avait avant l'intellectuel, mais il y avait aussi le grand écrivain. Et ça, c'est la Troisième République. Mais c'est fini, quoi. Je crois qu'on n'est plus, dans ça. Moi, l'étude des prix littéraires, j'avais fait... Il y a un mot qui revient souvent dans mon livre, c'est la désacralisation, justement, de l'écrivain. C'est-à-dire, c'est le rétrécissement spectaculaire de sa figure et même de son rôle au niveau social. Je dis toujours que Zola écrirait aujourd'hui « J'accuse » dans la presse, je pense que ça ferait aucun bruit. Alors qu'à l'époque, ça a réussi, sur l'affaire Dreyfus, un écrivain a réussi par un papier dans la presse à faire diviser la France, du bord de la guerre civile. Je crois que c'est absolument plus imaginable aujourd'hui. C'est plus possible. J'ai étudié aussi l'effondrement des discours des prix Nobel de littérature français. Je ne veux pas dire du mal, mais je vais en dire un peu de mal. Le Clésio, le dernier en date, il n'est absolument pas à la hauteur des autres discours quand on regarde par rapport à Claude Simon, Camus avant, c'est Saint-Jean Perse encore avant, ce qui se fait mauvaise conscience de son temps. On lit celui de Le Clésio, on est dans le petit. Enfin, vraiment, on n'est plus. C'est, voilà, rétrécissement de l'écrivain. Ça, c'est assez saisissant. Ouais.
Par exemple, j'ai un ami, bon, je ne vais pas citer parce que je ne vais pas demander si je pouvais le citer, mais qui explicitement dit à chaque fois qu'il signe un contrat, qu'il rappelle à son éditeur qu'il ne veut pas être inscrit sur les listes de prix, qu'il ne veut pas que ses livres soient envoyés aux jurés, etc. Donc, mais combien sont-ils à faire ce geste-là ? Sans doute pas beaucoup. Moi-même, bon, de toute façon, je suis pas dans le viseur, mais je l'ai pas fait ce geste-là pour l'instant. Mais on voit bien qu'il y a une pression colossale et que la vie s'articule autour de ça, mais de manière très immature, quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est les prix des écoliers, quoi. C'est-à-dire avec l'idée de classement. Et là, on en vient à Sartre. Quand Sartre explique pourquoi il refuse le prix Nobel, c'est il dit, mais parce que l'idée de classement est complètement étrangère à l'idée de la littérature et que l'idée de classement, elle a quelque chose de violemment immature. Alors cette année, je suis meilleur qu'un tel, mais l'année prochaine, je serai moins bon qu'un tel. Et donc, il y a une espèce de dégoût d'être ramené dans la cour d'école où on passe notre temps à se mesurer aux autres, à voir qui a mieux réussi l'exercice de maths, etc. Mais bon sang, la littérature, normalement, c'est de l'ordre du grand vent, c'est de l'ordre de la claque, comme n'importe quelle expérience artistique. Ça déplace quelque chose, ça n'est pas au contraire être assigné à une place. Donc il y a quelque chose de malheureux là-dedans, quelque chose de morbide dans ce système-là, et qui, de manière assez invraisemblable, continue d'exister, continue de vivre et de fonctionner comme ça.
Goncourt, le prix du refus. avec Michel Murat, Arnaud Bertina, Sylvie Ducas et Cathy Barrault de la maison Julien Gracq à Saint-Florent-le-Vieil. Lecture, Olivier Appert. Archivina, Marine Decanse. Merci à Jean-François Louette. Mixage, Alain Joubert. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Guillaume Baldi.
Voilà, LSD c'est tout pour aujourd'hui. C'est manigancé par Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier. Et si vous voulez nous refuser, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster pour le prochain tour ou nous réécouter le jour des résultats, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook et Twitter. Et demain, dernier chapitre, Sade, le prix du fouet. Mais dans un instant, juste avant le journal de 18h, on retrouve Hervé Gardette.